Le point de départ de Girl Scout 2, c'est cette observation qu'il y a toujours et encore une sous-représentation des femmes dans certains domaines techniques, entre autres en génie mécanique, mais également en informatique. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si on donne bel et bien la même opportunité à chaque personne dans notre société.
Rencontre at Fond d'études, un podcast de la Fondation Suisse d'études. Conversation inspirante avec le réseau de la Fondation.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Rencontre à Fond d'études, le podcast de la Fondation Suisse d'études. Je m'appelle Matteo Titus et je suis collaborateur scientifique auprès du bureau de la Fondation en Romandie. C'est avec grand plaisir que nous débutons cette troisième saison en recevant un bénéficiaire francophone, enfin d'origine en tout cas, puisqu'il évolue depuis plus de 6 ans à Zurich. Il m'a d'ailleurs confié que sa pratique du suisse-allemand était en plein développement, la qualifiant d'expérimentale. Une conception de l'apprentissage des langues, somme toute, moins surprenante quand on a affaire à un ingénieur diplômé, fils de parents ingénieurs également. Avant de présenter notre invité de manière plus classique, j'aimerais m'arrêter sur son intérêt pour le sport, qui dit certainement quelque chose sur sa personne. Il a commencé par faire de la natation de manière compétitive pendant plus de 10 ans, puis il s'est tourné vers la montagne et l'escalade. Membre du club alpin suisse, section de la Gruyère, il apprécie aller au bout de l'arête. Et il ne fait pas que s'engager dans des voies. Nous en reparlerons tout à l'heure. Lorsqu'il dispose de moins de temps, il se tourne vers l'escalade de bloc. Il apprécie se mesurer à ses problèmes résolubles à la force du chausson. Et si la grimpe requiert une certaine souplesse, sa curiosité suit le mouvement. Lui qui s'intéresse à la technique, mais aussi à la politique, l'histoire et l'environnement. Bonjour Mathieu Dubié, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Matteo, merci pour ton invitation et ton introduction.
Cher Mathieu, une première question. D'où tiens-tu la détermination à aller au bout des choses et comment a-t-elle évolué au fil des années?
Je pense que cette détermination, elle vient avant tout d'une grande curiosité qui s'est manifestée dès que j'étais enfant. Je suis en constante envie de savoir comment le monde il fonctionne autour de moi. Et généralement, je ne suis pas satisfait dans cette quête par des réponses simplistes. Et ça me pousse à aller chercher toujours plus d'éléments de réponse, que ce soit en lisant des livres, en ayant des discussions ou simplement au cours de mes études. Et je pense que cette constante recherche d'éléments de réponse me pousse à toujours chercher le petit truc en plus qui définit, selon moi, une certaine forme de détermination. J'aimerais ici même peut-être aussi évoquer l'influence du sport, comme tu l'as mentionné dans ton introduction, en particulier le sport de compétition. C'est un monde un peu à part qui demande une détermination forte pour se surpasser soi-même, bien entendu, mais également dans son équipe pour atteindre certains objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est d'autant plus important d'avoir cette détermination dans des moments peut-être plus difficiles avec des résultats qui ne sont peut-être pas au rendez-vous ou des blessures. Je pense que les sportifs et sportives qui nous écoutent se reconnaîtront ici. Je pense heureusement que dans ce voyage, entre autres dans le sport, mais également à côté, on a la chance, ou en tout cas j'ai eu la chance, d'être bien entouré par des personnes qui me soutiennent et qui m'inspirent au quotidien.
C'est essentiel, effectivement. J'aimerais maintenant, en parlant de détermination, aborder ton parcours. Tu grandis dans la campagne fribourgeoise, parfois quelque peu coupée des réalités sociales urbaines selon toi, réalité que tu vas peu à peu découvrir au fur et à mesure de tes études. Au Collège Sainte-Croix, tu apprécies particulièrement la physique, les mathématiques, mais aussi la philosophie, et donc tu décides d'étudier la mécanique à l'ETH. Jusqu'ici, rien de surprenant. Tu aimes tes études et les notes s'écartent peu du maximum. Mais après ton bachelor, tu décides d'enrichir tes connaissances. C'est pourquoi tu commences à suivre quelques cours de sciences politiques à l'Université de Zurich, mais ta curiosité est piquée au point de rattraper les crédits nécessaires pour commencer le master en sciences politiques en parallèle de ton master en robotique à l'ETH. Pendant 3 ans, tu jongles entre ces deux branches jusqu'à l'obtention de ton diplôme d'ingénieur en robotique en juillet 2024. Peux-tu nous en dire plus tout d'abord sur l'émergence de ton intérêt pour les sciences politiques et ensuite aussi comment as-tu concilié au quotidien les exigences particulières de ces deux matières?
Bien sûr, je commencerai quand même par dire que j'adore la manière de réfléchir et les outils techniques que j'ai pu acquérir à l'ETH. je pense que ça façonne la manière de penser, le cerveau certainement d'une certaine manière, quelque chose qui a beaucoup de valeur. Mais je pense que le cursus de l'ETH que j'ai pu suivre a certains manquements, entre autres à répondre à des questions un peu plus globales sur la société et sur la place de l'ingénieur dans la société. C'est un peu décevant dans le sens où les ingénieurs ont, selon moi, un rôle important à jouer dans le design et le façonnement de notre société moderne et capitaliste. Et je pense que c'est, oui, exactement, un peu décevant d'avoir manqué à répondre à ces questions de manière un peu plus structurée durant nos études. La science politique me semblait alors, donc après mon bachelor, une possibilité pour comprendre la société de manière un peu plus globale, quelque chose qui m'avait manqué durant mon bachelor. Et je pense que c'est quelque chose qui a piqué ma curiosité et qui est toujours quelque chose que je garde en tête au quotidien. Maintenant, concernant la conciliation de ces deux études en parallèle, bien entendu, ça demande un grand investissement de temps. Il y a eu des semestres où j'ai eu l'impression de courir d'un projet à l'autre, parfois avec la frustration de ne pas pouvoir investir suffisamment de temps dans chacun de ces différents projets. Mais en réalité, cela n'a jamais été un problème de motivation, puisque toutes ces différentes tâches ou ces différents projets étaient tout à fait intéressants. Je pense aussi que c'est quelque chose qui est uniquement faisable avec un calendrier flexible. Je pense que ça aurait été difficile de le faire en bachelor, où on a des cours simplement de 8h à 17h. En cours de bachelor, c'est un peu différent, on peut s'organiser différemment. J'ai eu la chance, par exemple, de faire un stage à 70% seulement pour pouvoir prendre des cours à l'université à côté. Je pense que si on réfléchit un peu à être flexible, on arrive à trouver des solutions pour cette conciliation.
Très intéressant ta versatilité. On va maintenant parler d'un engagement qui te tient à cœur. Tu t'engages depuis quelques années dans l'ONG Girls Code 2, qui a pour but de faire découvrir la programmation aux filles de 8 à 18 ans et de les initier aux métiers de la tech et de l'ingénierie. Ton engagement, il consiste principalement à donner des leçons de programmation. Tu as l'air de t'engager dans des activités qui non seulement te procurent un plaisir intellectuel, mais aussi un impact sociétal. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur ce que cet engagement t'apporte et sur l'impact de ce programme sur les participantes?
Oui, merci beaucoup pour cette introduction de Girls Code 2, qui est un projet qui me tient très à cœur. Le point de départ de Girls Code 2, c'est cette observation qu'il y a toujours et encore une sous-représentation des femmes dans certains domaines techniques, entre autres en génie mécanique, mais également en informatique. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si on donne bel et bien la même opportunité à chaque personne dans notre société. L'engagement chez Girls Code 2, pour moi, il y a deux aspects qui sont essentiels dans un engagement. Le premier aspect, c'est que Girls Code 2 regarde un problème sociétal, structurel, concret, et important à résoudre pour une société plus juste. Donc on a ce problème d'un côté, qui peut bien entendu être compris dans un sens très global, si on dit que cette sous-représentation des femmes dans certains domaines techniques est une conséquence directe d'une certaine structure de la société. Mais je pense que le focus chez Girls Code 2 est un peu plus restreint, puisqu'il va simplement à dire comment donne-t-on les mêmes opportunités à chacun et chacune dans notre société. Le deuxième aspect également très essentiel, c'est la manière de répondre à ce problème. Et c'est une manière qui est très pragmatique, avec un effet extrêmement direct. L'idée ici est effectivement de donner des workshops, des cours. Nous avons par exemple un cours extrascolaire que nous donnons chaque semaine dans une école primaire. Et ici, durant un semestre entier, nous suivons donc un groupe d'environ 10 filles et introduisons quelques concepts de base de la programmation, mais toujours avec un aspect créatif ou ludique. Je pense que le travail chez Girls Code 2 contraste avec d'autres associations, au but tout aussi noble, mais qui parfois, de mon expérience, se perdent dans certaines longues discussions et n'amènent parfois pas beaucoup d'output très concret. Je pense qu'ici, c'est important de passer à cette deuxième aspect que j'ai mentionné avant, cette manière de répondre à une thématique que nous avons, un problème que nous avons identifié. Et Girls Code 2 fait un très bon travail à ce niveau, je pense. Ici, j'invite volontiers toutes nos auditrices et auditeurs qui souhaiteraient nous soutenir ou nous rejoindre à visiter notre site web.
Eh bien voilà, on a entendu cela, merci beaucoup. Mais je pense maintenant, on a parlé d'une chose très concrète Et si on regardait au-delà, ton engagement s'inscrit très certainement dans une envie de contribuer de façon positive à la société. Mais comment adopter une perspective plus large, au-delà des engagements individuels, pour mieux comprendre les composantes fondamentales nécessaires à une société équilibrée et harmonieuse? C'est intéressant car tu t'es penché sur la question lors de ton année d'échange à Imperial College. Tu as en effet contribué à un projet de recherche sur la collaboration sociale dans un article paru déjà en 2022. C'est passionnant, je vais le résumer un petit peu. Vous recréez le jeu de survie illustré dans le thriller dystopien The Platform, sorti en 2019, où des prisonniers doivent choisir combien manger, sachant que les détenus suivants ne recevront que les restes et que l'ordre de passage de nourriture est redistribué à intervalles réguliers. Dans cette étude, vous explorez comment des agents autonomes peuvent former spontanément des contrats sociaux pour maximiser leur survie collective malgré des comportements individuels variés. Et vos résultats montrent que la communication et des traités de coopération bien conçus permettent d'éviter l'effondrement de la société simulée, bien que des tendances naturelles vers l'égoïsme en situation de rareté puissent menacer cette stabilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre recherche? Quelle était votre hypothèse de départ et vos conclusions ont-elles changé ta vision de la coopération entre les individus?
Je commencerai par dire qu'il existe bien entendu plusieurs manières de faire de la recherche sur des questions de société, des questions de sciences sociales. Et l'approche qu'on a eue dans ce travail, c'est une approche très technique puisqu'il s'agit au final d'une simulation et elle n'inclut par exemple aucun sondage auprès de personnes réelles, par exemple. Le focus ici était sur les mécanismes au niveau individuel et en particulier sur les motivations sociales, à savoir le fait d'être altruiste, collectiviste, égoïste ou même narcissique, et sur les contrats sociaux, à savoir la capacité des différents individus de la société à se mettre des règles et à les suivre. Ce que nous avons regardé ici, c'était comment ces motivations sociales et ces contrats sociaux affectaient la société tout entière, et en particulier son bien-être au niveau des ressources à disposition. Ici, il a été intéressant de voir que la formulation d'un contrat social atteignant les objectifs, à savoir un bien-être collectif positif, était quelque chose d'assez difficile. Effectivement, si on design un contrat de manière un peu naïve, on voit parfois des effets secondaires qui sont en réalité détrimentaux pour la société en tant que telle. Je pense qu'un travail comme celui-ci, ça montre surtout à quel point notre monde est complexe. Le moment où il faut écrire une équation ou une ligne de code pour décrire comment les individus interagissent, on se rend compte un peu de toute la complexité du monde et la complexité des relations humaines.
Et oui, tu as certainement plus d'une corde à ton arc. Et si maintenant on passe de la modélisation à l'utilisation de données, comme on aime bien le faire de nos jours, on va voir que tu travailles sur ces thèmes et que tu vas le faire aussi à l'avenir. En 2023, tu as effectué un stage chez Swissgrid, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Suisse. Et pour aller au-delà de l'aspect technique qui t'a bien occupé, bien entendu, cela a dû certainement te faire réfléchir sur les partenariats publics-privés. Comment faire valoir l'intérêt de la population dans la gestion d'un bien d'intérêt justement général? Nous avons déjà discuté de la manière dont tu as complété ta formation d'ingénieur. Comment encourager davantage l'interdisciplinarité dans les études d'ingénieur pour que, si j'ose dire, le courant passe?
Ça, c'est des questions pas si faciles. Mais je pense que la première chose qui me vient en tête spontanément, c'est de donner plus, de faire plus participer les gens. En anglais, on a ce concept d'ownership où effectivement, la société, les différents membres de la société possèdent une partie de ce bien public de manière très concrète et très claire. Et je pense que cette possession concrète, comme je le disais, elle amène à se poser d'autres questions, elle amène une autre responsabilité envers ces biens publics. Bien entendu, dans ce contexte, une communication claire, pas trop simpliste, comme je l'ai mentionné, et des explications détaillées sont certainement nécessaires. Maintenant, concernant la question par rapport à encourager l'interdisciplinarité dans les études d'ingénieur, je vois deux possibilités, disons. Une première, elle se fait vraiment dans les études techniques. Il s'agirait de donner donc plus de poids, ça veut dire plus de cours également obligatoires, à des cours moins techniques pour des filières techniques. Donc des cours moins techniques, plus tournés vers les conséquences de certaines technologies pour la société en tant que telle. Je pense que ça s'inscrit bien entendu dans le travail des ingénieurs dans ce monde. Les ingénieurs ne font pas que des maths, mais ils ont également une certaine responsabilité quant à leurs actions. Malheureusement, comme je l'ai dit déjà auparavant, c'est des discussions que nous n'avons pas beaucoup évoquées durant nos études. Une autre manière très concrète également, c'est d'encourager toute initiative qui favorise les interactions interdisciplinaires. Je pense ici, bien entendu, à la Fondation Suisse d'études, qui fait un excellent travail à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en regroupant des personnes d'horizons différents, on arrive vraiment à avoir une conversation qui est, par définition, interdisciplinaire, même s'il s'agit, bien entendu, que d'étudiantes et d'étudiants. Les différents domaines d'études se croisent et cela amène à des discussions très intéressantes et aussi à des réflexions sur son propre domaine d'expertise.
Je te remercie d'amener ce point. Et justement, tu évoques l'intersubjectivité, par exemple, dans le contexte de la Fondation. C'est quelque chose qui t'intéresse, cette analyse du comportement des êtres humains. Et cette analyse, elle contraste avec des disciplines comme les mathématiques, qui se reposent davantage sur des modèles aux définitions plus rigides. C'est d'ailleurs dans ton futur travail de master que tu as précisément choisi d'étudier les comportements sur les réseaux sociaux. Quoi de plus actuel que de travailler sur la détection des discours haineux sur TikTok, alors même que de nombreux réseaux sociaux renoncent, en tout cas en partie, à la modération du contenu. Parle-nous donc de ce projet que tu vas mener à la New York University, mais aussi en quoi il pose les bases de tes études doctorales à venir.
Oui, exactement. Ce projet sur les discours haineux sur TikTok est mon travail de master à l'université. L'approche que nous avons, elle est plutôt technique ici. L'idée, c'est de créer une pipeline de machine learning pour détecter donc les discours haineux dans les vidéos TikTok, mais sans regarder la vidéo TikTok directement. L'idée est donc d'utiliser tout ce qu'il y a autour de la vidéo, à savoir l'espace commentaire, mais également la description de la vidéo et les hashtags utilisés pour prédire la présence de discours haineux dans la vidéo elle-même. La motivation pour ce projet est donc d'utiliser des données texte uniquement, qui sont bien moins coûteuses d'un point de vue informatique à traiter que la vidéo elle-même. Ce projet s'inscrit également dans une volonté plus large pour mes études doctorales, effectivement, où l'idée serait d'approcher des questions de recherche qui viennent des sciences sociales, du comportement politique, du comportement social, mais avec des méthodes et des données techniques. Ici, l'idée, c'est vraiment de combiner des capacités techniques que nous avons aujourd'hui et un sens critique qui est très propre aux sciences sociales.
Cette combinaison de savoirs dont tu parles, parfois on commence à l'enseigner au niveau du doctorat, mais pour toi, ce n'a pas été exactement le cas. Il faut savoir que tu as déjà été un assistant d'enseignement, que ce soit en mécanique et plus tard en sciences politiques. Comment cela t'a-t-il marqué et peux-tu comparer ces expériences ?
Je pense que ce qui marque le plus, c'est la réalisation qu'on a, une envie d'aider les autres et en particulier dans leur compréhension de concepts qui sont parfois pas du tout triviaux. Je pense que c'est très joli en réalité de léguer quelque chose d'immatériel, donc une compréhension d'un concept qui est quelque chose de complètement abstrait et non pas quelque chose de matériel comme un produit physique. Je pense que c'est quelque chose de très, très valorisant. Bien entendu, les deux travaux en tant qu'assistant en mécanique ou en sciences politiques ne sont pas les mêmes, les concepts sont très différents, mais le rôle du teaching assistant, il est en réalité très similaire. C'est donc cette passation de connaissances, de compréhension d'un concept qui est quelque chose d'abstrait en réalité.
Cet entretien touche bientôt à sa fin. J'aimerais à présent revenir sur ton parcours à la Fondation Suisse d'études. Durant ces 5 ans, tu as pu bénéficier du programme d'encouragement de la Fondation. Et bien que tu étudies parfois à l'étranger, tu as participé à de nombreux séminaires et plusieurs académies d'été sur des sujets bien différents comme Ecosystem Design ou Music Computation and the Mind, par exemple. Et d'ailleurs, le semestre dernier, tu as aussi mis sur pied un groupe de lecture au sujet de la technologie et la démocratie. Comment as-tu vécu ces expériences et qu'en as-tu retiré ?
Je pense que ces différentes expériences à la Fondation Suisse d'études, c'est avant tout une ouverture sur le monde et sur la complexité du monde. Comme on l'a dit précédemment, la Fondation Suisse d'études a une approche interdisciplinaire du sujet. On y rencontre des personnes aux idées brillantes, mais avant tout avec une compréhension et un questionnement du monde qui est très intéressant. Tu as mentionné cette académie d'été Music Computation and the Mind. Ici, nous avons évalué le lien entre la musique, mais également les mathématiques, l'esthétique et la créativité. C'était très intéressant de prendre le temps. C'est également un privilège de pouvoir prendre ce temps pour réfléchir au lien justement entre la créativité et la musique, alors même que nous avons vu en cours de théorie que la musique est très codifiée et a une structure mathématique très puissante. Tu as également mentionné cet exemple du groupe de lecture que j'ai organisé le semestre passé. Ici, nous avons lu deux livres que je recommande à nos auditeurs et auditrices. Le premier étant « Democracy Hacked » de Martin Moore et le deuxième « The Age of Surveillance Capitalism » de Shoshana Zuboff. Ici, nous avons bien entendu vu des exemples de technologies de communication et leur lien avec la démocratie, mais nous avons surtout réfléchi aux acteurs qui sont importants dans ce contexte. Nous avons également réfléchi à la relation entre les différents acteurs ou au rapport de force, si on peut l'appeler comme ça. Un exemple ici est de se demander quelle est la relation entre les grandes entreprises comme Google ou Facebook et les consommateurs d'Internet. Est-ce qu'il s'agit d'un rapport de consommateur-producteur? Est-ce qu'on voit ces entreprises comme des facilitateurs ou des intermédiaires? Ou voyons même ce rapport comme un rapport d'exploitation? Ici, je pense que ce genre d'initiatives de la Fondation Suisse d'études qui sont également proposées par les encouragés elles-mêmes et eux-mêmes, elles encouragent à prendre le temps de réfléchir à des questions qui touchent toute la société et cela de manière très interdisciplinaire.
Merci infiniment à toi, Mathieu, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait découvrir ton parcours, tes passions et tes réflexions. Nous te souhaitons tout le meilleur à New York.
Merci beaucoup pour cette interview, en espérant qu'il inspirera d'autres à se questionner et à changer le monde qui nous entoure.
Nous remercions nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis pour cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la suite de la troisième saison avec d'autres personnes de notre réseau au profil passionnant. Elles ont toutes des expériences que nous nous réjouissons de partager avec vous. N'hésitez pas à prendre part à la conversation et nous envoyer vos commentaires et vos suggestions à info@studienstiftung.ch. Ciao, prenez soin de vous et à bientôt.
Rencontre at Pont d'études. Un podcast de la Fondation Suisse d'études.